Frères et sœurs, cet évangile est un peu surprenant. Jésus prend le temps de nous expliquer combien Jean-Baptiste est grand, important. C'est un prophète, plus qu'un prophète. Il est le nouvel Élie qui devait réconcilier le cœur des pères avec leur fils avant la venue du Messie. En somme, il est le plus grand des enfants nés d'une femme. Et après nous avoir dit combien Jean-Baptiste est grand, il nous dit en fait que Jean-Baptiste est, j'allais dire, est tout petit. Le plus petit de ceux qui sont dans le royaume est plus grand que lui. C'est un peu étonnant. Pourquoi est-ce qu'il nous dit cela? Il nous fait comme l'éloge de Jean-Baptiste, et en même temps il nous dit, mais vous savez, celui qui est dans le royaume des cieux, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Je crois que Jésus veut faire grandir en nous le désir du royaume. À la fois, il met le regard de ses contemporains sur Jean-Baptiste, qui les impressionne avec sa prédication au désert. Et en même temps, il nous dit, mais vous savez, entrer dans le royaume fait de nous être plus grands que Jean-Baptiste. Désirez le royaume parce que le royaume vient. Le royaume s'est approché de vous. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, car le royaume s'est approché de vous. Le royaume t'attend. Parce que moi, Jésus, j'en ouvre les portes. Et il le dit, bienheureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et de fait, peut-être que vous avez remarqué, les enfants, Jésus désigne aux disciples de Jean-Baptiste qui sont au niveau, il dit, mais regardez, dites à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Les aveugles voient, les sourds se mettent à entendre, les boiteux se mettent à marcher, les lépreux sont purifiés. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ils ont reçu miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Leur misère a été touchée par le cœur de Dieu. Leur misère a trouvé la miséricorde de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, cette même miséricorde nous est offerte à nous aujourd'hui. Elle nous est offerte à travers le sacrement de la réconciliation, à travers la confession, que vous pourrez recevoir à l'issue de la messe. Je vous le disais, 6 prêtres seront présents pour vous donner ce sacrement. J'allais dire, c'est facile, le salut vient à vous, il s'agit simplement d'ouvrir notre cœur et de s'en approcher. Le salut s'est approché de nous. On peut se dire, oui, mais là on parlait des aveugles, on parlait des sourds, on parlait des boiteux. Mais on peut réfléchir. J'ai su que j'étais aveugle, parce que je n'ai pas vu que mon frère avait besoin d'aide. J'ai su que j'étais sourd parce que je ne me suis pas entendu quand j'ai médit sur tel ou tel, quand j'ai calomnié mon prochain. J'ai su que j'étais boiteux parce que je n'ai pas pu marcher droit dans la résolution que j'avais prise. J'ai su que j'étais lépreux parce que ma chair m'échappait dans sa convoitise, dans sa sensualité désordonnée. Eh bien, du coup, je voudrais donner aujourd'hui quelques réflexions pour nous aider à vivre cette démarche de la confession. Comment cela? Je voudrais commencer par un rappel. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce sacrement de la réconciliation la confession? La première chose pour laquelle on l'appelle la confession, c'est parce qu'on commence par confesser l'amour de Dieu pour nous. On commence par dire l'amour de Dieu pour nous. C'est quelque chose de très important. Parce que comment ouvrir notre cœur si on pense qu'on a un ennemi en face? Si je pense que j'ai un ennemi en face, ben j'ai un peu peur. Et vous savez que cette peur est souvent un obstacle justement à la confession. On le voit bien d'ailleurs dans l'enfance quand on cache une chose. On sait bien, enfant, pourquoi on cache une mauvaise note. On a peur, peur d'être grondé, peur de ne pas être aimé. Mais en fait, en la cachant, on sera incapable de découvrir qu'on est aimé plus que pour nos actes. On est aimé pour notre personne, pour ce que nous sommes. Et ça fait une différence quand on l'a découvert. Ça nous donne une paix, une joie d'être nous-mêmes. Et vous voyez, ce début de la confession veut nous aider à sortir de la peur. Parfois, justement, dans les églises, on nous montre encore les crucifix. Mais pourquoi ? Parce que, on pourrait se dire, après ce que j'ai fait, plus personne ne peut m'aimer. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire de pire? Mettre Dieu en croix, on l'a fait. Et au lieu que ça produise notre anéantissement, Dieu en a fait un chemin de salut. Le crucifix est là pour nous dire ça. Ne crois pas qu'il n'y a pas de pardon pour toi. Moi, le Seigneur, j'ai donné ma vie pour toi. Donc ce début de la confession, on confesse l'amour de Dieu pour nous sauver justement de cette peur qui nous fait nous refermer sur nous-mêmes. Je voudrais dire encore, ayons confiance parce que dans la confession, on ne vient pas pour être pris en photo avec notre âme souillée, salie par les péchés, mais pour nous refaire une beauté de l'âme. Et quand vous allez chez le coiffeur, c'est parce que vos cheveux sont trop longs. Quand vous vous mettez devant votre glace le matin, c'est parce qu'après la nuit, vos cheveux sont peut-être dans tous les sens, que votre barbe a poussé. Vous allez chez le médecin, c'est parce que vous êtes malade. Alors n'ayons pas peur de dire ce que nous avons fait de mal. Le prêtre ne sera pas surpris, comme le médecin n'est pas surpris qu'on lui dise « j'ai de la fièvre, je vomis partout, j'ai une plaie infectée ». Ben, il est là pour ça. Imaginez la tête du médecin si vous veniez et si vous disiez « je suis malade, mais je ne vous dirai pas de quoi ». Problème, je sais bien que nous sommes fragiles. Et donc, de la même façon, ouvrez votre cœur au prêtre. Jamais le prêtre ne poussera de hauts cris en disant « Ah, quelle horreur! Vous avez fait ça? Ah, j'aurais jamais cru ça de vous! Ah, il a fallu que ça tombe sur moi en plus !» Ça, c'est notre imagination et c'est notre cœur qui a peur, justement. C'est pas du tout le regard que le prêtre pose sur nous. Voyez, ce que le prêtre voit, ce n'est pas votre péché, mais l'action de l'Esprit-Saint en vous. Au contraire même, en vous confessant, en reconnaissant que vous aviez péché, vous faites du bien au cœur du prêtre, car vous lui donnez de voir l'action de l'Esprit-Saint en vous. C'est étonnant ça. Il y a un moment, entre guillemets, où le péché peut faire du bien, c'est quand on le confesse. Le péché, non, c'est le mal, on a refusé d'aimer. Eh bien, une possibilité de transformer cela, parce qu'en le confessant, on montre l'Esprit-Saint à l'action en nous. Et le prêtre se dit, justement, quand il voit des gens qui disent des choses lourdes, des choses qui peuvent être honteuses, des choses qui sont difficiles, voilà que le prêtre se dit combien cette personne s'est ouverte à l'Esprit-Saint pour oser dire ces choses lourdes. Et il l'a dit sans détour, sans chercher d'excuses. Combien l'Esprit-Saint a travaillé dans son cœur et combien il s'est laissé travailler. De plus, il y a un secret absolu. Voilà, non seulement le prêtre ne peut jamais répéter ce qu'il a entendu à qui que ce soit, pas même à un autre prêtre, pas même à un juge, pas même au pape, mais plus encore, le prêtre ne tiendra pas compte dans nos rapports ordinaires de ce qu'il a entendu en confession. Cela ne lui appartient pas. Ça appartient à Dieu seul. Le prêtre, d'ailleurs, dans l'Eucharistie, offre ce qu'on lui a déposé. Et il demande la grâce de l'oubli, parce que c'est le secret qui appartient à Dieu. Alors, pour nous aider aussi au cœur de la confession, apprenons aussi à dire, plutôt que de défauts, plutôt que des tendances à dire des actes. Comment ça? Qu'est-ce que c'est les péchés? Fondamentalement, c'est ces moments où l'on n'a pas aimé comme Jésus aime. Et Jésus nous donne la règle d'or. Alors les enfants, vous êtes toujours présents? Toujours vivants? Oui? Ça va, je vois que Champ est toujours vivant. Est-ce que Paola est encore réveillée? Oui? Merci Paola. Jésus nous a donné la règle d'or pour nous aider à discerner. Qu'est-ce que c'est la règle d'or? Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Regardez ce que, par exemple, comment s'est passée votre semaine. Peut-être qu'un jour, je me rends compte, on ne m'a pas dit merci, ça ne m'a pas plu. On ne m'a pas demandé pour emprunter mon livre, ça ne m'a pas plu. Et est-ce que moi je l'ai fait? Peut-être que on m'a rendu quelque chose que j'avais prêté en mauvais état, ou que j'ai rendu quelque chose en mauvais état, j'aurais pas aimé qu'on me le fasse, et je l'ai fait. Seigneur, pardon. Peut-être que j'ai pas été fidèle à une promesse que j'avais faite, j'aurais pas aimé qu'on soit infidèle à la promesse qu'on m'avait faite. Alors Seigneur, pardon. J'ai fait semblant de ne pas voir ou de ne pas entendre quelqu'un. Oh, j'aurais pas aimé qu'on m'ignore. Seigneur, pardon. Vous voyez, en disant des actes, on permet de faire la différence entre le péché et le pécheur. Dieu est en guerre contre le péché, mais Dieu est venu sauver le pécheur. Il est plus juste de dire « j'ai commis un acte de vol » plutôt que de dire « je suis un voleur » parce que je ne suis pas qu'un voleur. Quitte à dire « j'ai commis un acte de vol et j'y ai mis tout mon cœur ». C'est vrai. Quand je l'ai fait, j'y ai mis tout mon cœur. Peut-être que même que j'ai aimé le faire. Ça, on peut le dire. Voyez aussi que on n'a pas à raconter toute sa vie. On a juste à dire ce qui est utile. Je vous donne un petit exemple. Imaginez un enfant qui dit « j'ai menti en disant l'heure ». Bon. Et puis, en fait, il dit aussi « j'ai menti en disant l'heure à ma mère ». Ah, c'est vu la personne à qui ça s'adresse, il y a un élément différent. Ou « j'ai menti en disant l'heure à ma mère pour faire punir mon frère ». Tiens, c'est encore autre chose, ça. Ou finalement, « j'ai menti en disant l'heure à ma mère pour faire punir mon frère » parce que je voulais me venger de lui. Ah ! Au départ, on pensait que c'était le mensonge, le problème. À la fin, on sait que c'était la vengeance. Bon, il faut dire juste ce qui est utile. On n'a pas besoin de savoir que c'était dans telle maison, qu'il y avait une horloge qui disait qu'il était 14h30, qu'il y avait un tapis bleu, ou je ne sais. Ce qui est utile. Et lorsque on a fini, on a dit ce dont on se souvenait, bon, on le dit au prêtre, voilà ce dont je me souviens. Peut-être d'autres choses, mais je ne m'en souviens pas. Et puis, peut-être une chose encore. Vous savez, il y a des fois, il y a quelque chose, on n'arrive pas à le dire. Ça n'arrive pas à sortir. Alors dites au prêtre, il y a encore autre chose, mais je n'arrive pas à le dire. Ne le cachez pas. Ne dites pas, oui, ça, il n'y a rien. Peut-être il y a quelque chose d'autre et je n'arrive pas à le dire. Parce que si vous faites ça, vous recevrez la grâce de Dieu, peut-être ce jour-là, le courage de le dire, ou peut-être un autre jour, mais Dieu voit le fond de votre cœur, donc ne planquez pas les choses. Frères et sœurs, parfois on se dit, mais pour changer ma vie, il faudrait un miracle. Eh bien oui, c'est ce que le Seigneur veut faire. Donnez au Seigneur la possibilité de faire un miracle dans votre vie à travers ce sacrement de la réconciliation. Peut-être un dernier mot pour les personnes dont le statut ne permet pas de recevoir encore l'absolution. Vous pouvez faire un acte pénitentiel en allant voir le prêtre et en lui disant « voilà, je sais que dans ma situation, je sais que je ne peux pas recevoir l'absolution, mais je viens faire un acte pénitentiel ». Ce geste est important devant Dieu. Le prêtre vous bénira. Il y a des moyens que Dieu connaît, par lesquels sa miséricorde passe aussi. On nous le dit dans l'Écriture, l'aumône couvre une multitude de péchés. Ce n'est pas rien que d'aller se reconnaître devant le Seigneur. Frères et sœurs, bienheureux celui qui vient à Jésus avec simplicité et confiance, comme ses pauvres, ses lépreux, ces aveugles, ces boiteux, car le royaume s'ouvre pour eux. Aujourd'hui, à travers ce sacrement qui vous sera proposé, le royaume s'ouvre pour vous, s'ouvre pour nous. Amen.